Gelo gosa kong gelo ya de kirim kutu.
Bonsoir, révocation mardi dernier de la ministre des Transports et Voies des Communications. Avec ce départ, le gouvernement congolais compte désormais 400 ministères sans titulaire. Comment le gouvernement arrive-t-il à fonctionner dans ces conditions? C'est notre thème de ce soir. Pour en parler, je reçois dans cette émission Maître Patrice Joseph Lendo. Il est avocat et analyste politique. Maître Patrice Lendo, bonsoir.
Bonsoir.
Joseph Kongolo, également analyste politique avec nous dans ce studio. Bonsoir Joseph Kongolo.
Bonsoir.
Et le professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique. Il est en ligne. La réalisation me signale qu'il n'est pas encore en ligne, mais vous, auditeurs des radios Okapi, vous êtes déjà nombreux à envoyer vos réactions. C'est le cas de Pierre Chindano Koko de Goma au Nord Kivu. Je crois que cette question de vide au sein du gouvernement central n'a pas de raison d'être, du fait que l'article 94 de la Constitution stipule que les vice-ministres assument l'intérim des ministres en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. Il dit Sébastien de Kongolo Katanga, je pense que le limogeage de Marie-Laure Kawanda est l'expression de la manière dont la RDC est mal gouvernée. En vérité, toute l'équipe gouvernementale actuelle devrait partir avant décembre car elle n'inspire plus conscience. Merci de nous suivre en Bandaka dans la province de l'Équateur sous la 103.0. Et pour vous qui êtes à l'étranger, rejoignez-nous sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez-les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radioocapi.net.
Marie-Laure Kawanda, jusque mardi dernier, ministre des Transports, a été limogée du gouvernement après le naufrage dans la nuit de dimanche à lundi dernier d'une embarcation sur la rivière Kasaï. Dans l'un de ces cas, plus d'une centaine de personnes ont péri dans cet accident. Avec le départ de Madame Kawanda, le gouvernement congolais compte désormais 4 ministères sans titulaire, à savoir le ministère du Travail, du Commerce extérieur, du Développement rural et enfin du Transport. Le gouvernement va-t-il continuer à fonctionner ainsi avec tous ses vices? Lambert Mende, porte-parole du gouvernement central, répond au téléphone de Vincent Oliver.
Oui, je pense que le chef de l'État ne laissera pas vide tous ses portefeuilles, bien que pour parler de vide, en fait, les portefeuilles, une fois libérés par leurs anciens titulaires, sont gérés en intérim par d'autres ministres qui sont désignés par M. le Premier ministre. Mais je pense que dans un délai dont il a lui-même le contrôle, le président procédera au remplacement ou à un chambardement, tout dépend de ce qu'il décidera de faire le moment venu.
Oui, vous avez parlé des intérimaires, mais les intérims posent possiblement un problème de la maîtrise des dossiers dans ces ministères.
Je ne pense pas. Je pense que souvent on prend des ministres exerçant des responsabilités dans des matières connexes qui sont plus ou moins proches de celles qui ont été exercées par les collègues qui ont dû partir. Et donc, je ne pense pas que le problème se pose dans ce thème-là. Il présente régulièrement des notes au Conseil qui sont très bien élaborées, qui permettent au gouvernement de s'y pencher et de prendre des décisions.
Maître Patrice Joseph Lendo, vous êtes avocat et analyste politique. Comment vous analysez-vous cette situation au sein du gouvernement congolais?
Merci de l'attention patriotique et républicaine. Sincèrement, j'analyserai cette situation avec beaucoup d'amertume et de sûrement dans mon cœur de patriote et de républicain, d'autant plus que je continue à croire que le gouvernement, c'est l'instrument par excellence de la matérialité, si vous voulez, de la politique au niveau de la nation, et que ce n'est pas sans raison qu'on a, j'aurais pu parler de stratifier, mais qu'on a distingué les différents ministères. Et aussi, il ne faut pas perdre de vue que nous savons comment les choses marchent dans notre pays, et tout c'est au niveau de ministres, et l'administration, bon, elle est ce qu'elle est, pour ne pas dire presque inexistante. Donc dire que 4 ministres et des ministères, pas de moindre, j'ai cité le travail, ou il ne faut pas perdre de vue que parmi les 5 sentiers de la nation, eh ben, il y a le travail comme sentier, et faire partir le ministre qui était non seulement un simple ministre, mais vice-premier ministre et ministre du Travail. Et il a été révoqué, et jusqu'à ce jour, je ne voudrais pas compter de jours, hein, de vidité ou de vide à la tête de ce ministère, quand bien même qu'on parlerait des intérims, mais nous savons aussi la maîtrise des dossiers par ministère poserait encore problème. Et donc, je vois aussi maintenant le ministère des Transports et le ministère du Commerce extérieur et celui du Développement rural. Donc, ce sont en fait les ministères piliers, si vous voulez, de la visibilité de l'action du gouvernement. Et les avoir, je pourrais dire, décapités et laisser cela pendant des temps plus ou moins longs, comme nous le notons, c'est un peu déplorable. Et je ne pense pas que cela soit une bonne expérience que la gouvernance actuelle pourra léguer aux gouvernances futures.
Alors, pour le ministre, le porte-parole du gouvernement, cela ne pose pas de problème parce qu'il y a des ministres qui assument l'intérim de ces ministères où les ministres ont été révoqués ou ont démissionné.
Je vais vous dire une chose. Avez-vous déjà déposé un document dans l'un des ministères pour lesquels vous attendrez traitement? Ça met le temps que cela prend. Avec le ministre attitré, pas le ministre intérimaire, le ministre attitré. Quand déjà je suis ministre sur moi pour les inputs qui entrent pour en faire des outputs, les demandes, voyez-vous, de bénéficier de ces services publics-là, il y en a qui prennent des trimestres entiers et dire que ça ne poserait pas de problème. Je ne voudrais pas être le ministre Mende pour dire cela, mais néanmoins, je crois savoir qu'il y a un problème. Ça n'aurait pas posé de problème si l'administration de notre pays était effectivement. C'est le lien là, vous voulez, de support de l'action gouvernementale, mais nous sommes dans un pays où tout est ministre, tout est gouvernement, l'administration elle est où?
Pour vous, l'administration,
comment? Non, l'administration est dans un état pratiquement d'inexistence. Ça, il faut pas masser les mots. C'est. Nous n'avons pas de fonction publique, nous n'avons pas d'administration encore.
Alors, Joseph Kongolo, vous, de votre côté, vous êtes analyste politique, je rappelle. Comment vous analysez ce vide au sein du gouvernement congolais? Quatre grands ministères, quand même, qui manquent des ministres. Comment vous analysez cela?
Bien, merci, madame, pour la question. Je crois que mon voisin de gauche vient de poser un problème sérieux, c'est que c'est un cas véritablement déplorable de voir constater que le temps que ces vides ont existé dans le gouvernement donne des matières à réfléchir. D'abord, pourquoi se fait-il que les bien des ministres qu'on espère soient absents du gouvernement et que, apparemment, le gouvernement semble fonctionner normalement? C'est ce que le ministre vient d'indiquer tout à l'heure, M. Lambert Mende. Il se pose un problème sérieux du fond. C'est que dans notre gouvernement, et plusieurs des ministres d'ailleurs l'ont dit, il y a autour du chef de l'État ce que l'on appelle un gouvernement parallèle. C'est-à-dire l'essentiel des matières importantes sont étudiées, analysées par le gouvernement parallèle. Et en ce moment-là, on réduit les ministres ou encore les ministères reconnus à des simples instruments administratifs chargé tout simplement d'exécuter les mesures inspirées par le gouvernement parallèle qui est en train de fonctionner autour du chef de l'État. Et je crois que cela démontre assez suffisamment combien le président a pris le temps pour remplacer les vides qui se sont manifestés au sein du gouvernement. Ça montre que ces vides, en réalité, c'est pour nous, les gens de l'extérieur, il y a des vides, mais à l'intérieur du système, ce sont des vides déjà comblés à un niveau supérieur autour du chef de l'État. Sinon, ça ne s'expliquerait pas que des grands ministères comme ceux-là, qui doivent gérer leur portion de responsabilité quotidiennement, et ils passent des mois durant sans responsable politique. À ce moment-là, ça ne suffit pas. C'est lui qui assume l'intérim. Il est déjà responsable de notre ministère. Déjà, la tâche d'un ministère est suffisamment grande. Il prend pratiquement l'ensemble du temps matériel, n'est-ce pas, du titulaire. Et quand il doit assumer l'intérim quelque part, à votre avis, il n'y a pas un travail de fond qui est fait. Il n'y a pas un travail de fond qui est fait. Je crois que le travail de fond, c'est celui qui est fait par ce gouvernement parallèle, et que l'intérimaire, tout comme le ministre en fonction, il fait juste un travail de nature tout à fait exécutive.
Alors, Joseph Kongolo, il y a une autre question que les auditeurs, que la population se pose. Parmi les ministres qui sont partis, il y en a qui avaient des vice-ministres. Mais bizarrement, au lieu que ces vice-ministres, comme le stipule la Constitution, puissent assumer l'intérim, c'est plutôt des ministres qui le font. Comment on peut expliquer cela?
Bon, c'est un problème de foi. Vous savez que l'actuel gouvernement, c'est un gouvernement qui est issu de la coalition entre la MP et le PALU et l'UDIMO. Ce qui fait que les ministres sont choisis par les responsables des partis politiques qui sont reconnus dans cette alliance et que, des parts du ministre, nous pensons que c'est le même parti politique, si déjà il y en a, qui doit confirmer ou qui doit donner, n'est-ce pas, un acte au président de la République pour confirmer l'adjoint qui est censé être, n'est-ce pas, du même parti que le titulaire. Alors, si, administrativement parlant, il n'arrive pas à assumer l'intérim, n'est-ce pas, de ceux qui sont là, effectivement, je crois que nous devons savoir comment fonctionnent les ministères, quels sont les textes, n'est-ce pas, qui régissent le fonctionnement des ministères. Alors, si on a les lois exigent à ce que les vice-ministres puissent assumer l'intérim à l'absence du ministre titulaire, et que ça ne se fait pas, c'est clair, il y a un couac dans le fonctionnement des institutions. Il y a un couac, et je crois que ce sont des dysfonctionnements qui arrivent à étouffer pratiquement l'action du gouvernement, et ce qui fait que la population, vu de l'extérieur, le gouvernement semble être pratiquement à marge, n'est-ce pas, des objectifs de la société.
Alors, maintenant, passé, Joseph Lendo, un réaménagement est-il opportun aujourd'hui?
Ben, je l'ai dit, je ne m'empêcherai pas de le répéter là-dessus. Vous savez, nous sommes en train de vivre ce qu'on qualifie de sclérose gouvernementale. On ne sent plus. Et voyez-vous, l'impact du gouvernement dans les tissus sociétals, ça, il va de soi. Et en plus, je me demande comment on peut rester pratiquement à l'antichambre des élections qui s'annoncent aussi houleuses comme ça, un gouvernement amputé de plusieurs membres. Et c'est pour dire que je croyais sincèrement au lendemain de la première évocation que le réajustement technique ou politique du gouvernement et n'attendrait plus de nuit, mais je viens de me rendre compte qu'il y a des mois entiers et qu'on continue encore à l'évoquer. Donc, je dirais, si cela dépendait de moi, les réaménagements ou le remaniement sautent pratiquement aux yeux. C'est une question purement d'évidence, parce qu'il faut, avec tous ces départs, il faut recréer, si vous voulez, l'esprit du gouvernement, il faut remettre en place l'âme du gouvernement qui a été trahi par certains ministres. Donc là, je me dis, bon, hélas, je ne suis qu'un technicien dans l'analyse des questions, je ne suis pas politique pour comprendre certaines raisons, mais je crois savoir que même sur le plan politique, nous n'avons pas suffisamment de raisons de pouvoir faire traîner la chose aussi longtemps que cela prend, mais d'autant plus que, comme je l'avais dit, le gouvernement constitue un instrument important dans la gouvernance dans un État, et tout ce qu'on est en train de vivre aura pour conséquence quoi? La dénaturation, si vous voulez, de l'image, du rôle même du gouvernement dans l'État. C'est pourquoi certains parleront d'un gouvernement parallèle, mais je pense que le gouvernement parallèle, moi je ne suivrai jamais cela, de dire qu'il y a un gouvernement parallèle. Le problème c'est quoi? Nous devons, vous savez, les institutions ne valent que ce qui valent les hommes qui les animent. Vous êtes ministre aujourd'hui. Il ne faudrait pas permettre à moi qui ne suis pas ministre de pouvoir régenter votre domaine. Et là, ça pose des problèmes d'audace, voyez-vous, d'audace personnelle. Est-ce, avons-nous des ministres audacieux? Bon, c'est la question que je note. Avons-nous des magistrats audacieux? Avons-nous d'avocats audacieux? C'est par là que je voulais noter que l'audace dont je parle ici procède avec des attributs et républicains de chacun dans la société. Moi, je suis analyste politique, ici devant votre micro. Donc, j'ai l'audace de mes analyses, et surtout que cela concourt en fait à l'esprit démocratique qui sécrète les différents textes qui organisent la chose publique.
Alors, M. Paki, Joseph Lendo, on va prendre pour vous une question qui nous vient de Mbandaka, dans la province de l'Équateur.
Jean-Bernard Mideko, Mbandaka, plein de l'Équateur. Cela prouve à suffisance que le véritable travail de l'exécutif congolais se fait en dehors de ces gouvernements. Qu'ils soient complets ou pas, c'est la même chose.
C'est plutôt un point de vue qui nous vient de Mbandaka. N'est-ce pas facile, Joseph Kendo?
Oui, c'est ce que j'ai dit. La conséquence négative de tous ces mouvements sporadiques, c'est quoi? C'est qu'au niveau de l'opinion, les gens se rendent finalement compte que ça ne sert à rien d'avoir un gouvernement dans ce pays. C'est ce que venait de dire notre compatriote de Mbandaka. Or, je ne pense pas que cela soit vrai. Nous sommes dans un état qui se veut démocratique, c'est-à-dire tout qui est de la constitution des textes qui organisent la République. Il ne faudrait pas qu'on fasse perdurer cette image des institutions auprès de l'opinion. Et là, ce n'est pas bon. Donc, je rejoindrai un peu notre ami de Mbandaka qui constate carrément que le gouvernement ne sert à rien. Admettons une équipe de football pour jouer, on nous fait croire qu'il faut 11 joueurs. Mais si on commence à vivre sur le terrain de football des équipes avec 4 joueurs, on se demanderait pourquoi on doit avoir des équipes de 11 joueurs, dès lors que 4 donnent le même résultat que 11. Mieux vaut réduire 11. Ce n'est pas si c'est force. Sincèrement, ce n'est pas le cas.
Merci, notre parti Joseph Lindo, Joseph Kongolo. Lorsqu'une situation d'intérim prend beaucoup de temps, est-ce que cela ne risque pas de poser problème?
Bien sûr, ça doit poser des problèmes. D'abord, l'élégance des textes. Quand on suit des textes, c'est pour les respecter. Ça doit poser un problème parce que qui assume l'intérim? Nous sommes dans un domaine politique. Nous ne sommes pas dans un domaine administratif. Nous sommes dans un domaine politique. Là où, en plus, n'est-ce pas, des structures qu'on anime, l'homme a un poids, a un aura, l'homme a une importance, n'est-ce pas, dans l'animation d'une institution. Et l'homme qui a été nommé ministre, et celui qui vient assumer l'intérim, je crois qu'ils sont reçus différemment. Ils sont reçus différemment, de même qu'ils ont des opinions, des orientations différentes par rapport à l'action politique que s'est tracé le titulaire dans un domaine donné. Voyez-vous, il y a une vision, il y a un idéal, n'est-ce pas? Il y a une manière d'orienter l'action gouvernementale dans son secteur précis. Et celui qui vient assumer l'intérim, ne vous en faites pas. L'intérim ne doit pas traîner. En fait, il doit juste gérer, n'est-ce pas, les affaires courantes au niveau du ministère, en attendant qu'on confirme ou qu'on nomme un autre ministre. Mais si un intérim doit traîner longuement, c'est que déjà, on va fausser l'orientation. L'orientation, n'est-ce pas, de l'action gouvernementale tracée par le ministre, qui s'est constitué une équipe de travail, donc des conseillers, il s'est constitué des conseillers, et dans ces conseillers, il a donné une impulsion, une direction donnée, et c'est comme ça qu'il travaille vers des objectifs précis. Celui qui vient assumer l'intérim, en fait, va-t-il s'imprimer dans la logique du précédent, ou encore il va imprimer une autre logique avec une équipe qui n'est pas la sienne. Vous comprenez? Donc l'intérim, en réalité, en principe, c'est un intérim qui ne doit pas faire longtemps. Il ne doit pas faire longtemps. Mais, malheureusement, il s'est fait qu'ici, que nous...
Tu peux prendre combien de temps, par exemple?
Non, mais l'intérim ne doit pas dépasser... nous sommes dans le domaine politique. Hein. L'intérim ne doit pas dépasser un mois. Il ne doit pas dépasser un mois. En principe, si c'est un... Je ne sais pas si c'est au ministère des Finances, qui fonctionne tous les jours, n'est-ce pas? Là où il y a des retraits de fonds, ainsi de suite, et tout ça, des documents administratifs qui doivent passer. Est-ce que ça allait prendre autant de temps? Je ne pense pas. Vous voyez, là, c'est une erreur. En fait, on ne devait pas aller au-delà de 2 semaines. Nous voyons ailleurs. Quand un ministre doit partir du gouvernement, d'abord, avant qu'il ne parte, il y a déjà un autre ministre pointé, connu de l'opinion, c'est elle qui va remplacer elle. Si ce n'est pas le cas, c'est dans les 2-3 jours qui suivent, le ministre, il est remplacé officiellement, il y a un autre qui est nommé. Mais ici, chez nous, ce sont des vides qui se prolongent, effectivement, c'est pourquoi nous confirmons ici, dans un gouvernement parallèle au niveau du président de la République, il exécute. Qui exécute et qui fait exécuter certaines tâches dues à l'ensemble du ministère, qui sont pratiquement réduits à des simples services administratifs.
Alors, Joseph Congolais, on va entendre pour vous cette réaction qui nous vient de Matadi dans la province du Bas-Congo.
Là, on a fait l'eau de Matadi dans le Bas-Congo. Que les membres du gouvernement soient au grand complet ou pas, rien ne change au vécu quotidien du Congolais. Je pense que la sanction en ce qui concerne la révocation de la ministre du Transport est une mesure contre les faits. Si l'argument des taux d'accident dans le secteur est soutenu, ils nous disent qui d'elle et de celui chargé de payer les fonctionnaires tués à petit feu a le plus mais je crois que l'équipe entière a failli. Et la solution, c'est que le centre faire un dernier contrôle parlementaire pour que tous ceux qui sont impliqués dans la médiation cèdent leur côté. Il y a assez de Congolais capables pour ce qu'ils font.
C'est pas juste Congolais.
Il a posé un problème de fond. Je crois qu'il n'est pas très en ligne avec le débat du jour. C'est l'efficacité ou l'inefficacité du gouvernement. Et c'est vrai que ça, c'est une autre paire de manches, parce que il faut dire que l'ensemble du gouvernement, nous l'avions dit plusieurs fois sur le micro, que le gouvernement ne répond pas, n'est-ce pas, aux attentes du peuple. Et cela, c'est vrai, l'orateur de tout à l'heure vient de le dire, cela ne dépend pas du caractère complet ou incomplet du gouvernement, mais dans l'ensemble, il y a un manque, n'est-ce pas, d'une impulsion, d'un leadership éclairé qui doit impulser, n'est-ce pas, qui doit donner de nouvelles impulsions orientées vers le développement de la nation. Or, malheureusement, sur ces plans-là, nous avons dénoncé, n'est-ce pas, cet état de cause, c'est que le gouvernement, l'État congolais, n'a pas vraiment un leadership très éclairé qui puisse orienter et l'ensemble des institutions qui sont chargées d'exécuter les charges de développement et l'ensemble de la population dans une direction, n'est-ce pas, dans une direction qui arrive à satisfaire pratiquement l'essentiel, n'est-ce pas, des besoins de la population. Je crois que c'est une question de fond, il a complètement raison. Est-ce qu'aujourd'hui, de par cette inefficacité du gouvernement, depuis les jours d'ailleurs, est-ce que l'absence des membres de ce gouvernement va-t-il influer sur la marche de l'État? Non. Eh bien, dans sa logique, il n'y a pas une influence. Donc, c'est un débat de forme, en quelque sorte. Ce que nous disons ici, l'absence des quatre ministères, c'est un débat de forme. Mais le fond reste le même, c'est une efficacité notoire. Je crois qu'il faut une refondation totale de l'action gouvernementale, une refondation totale de la gouvernance. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et l'orateur de tout à l'heure a complètement raison. Mais c'est un débat de fond. Ici, nous sommes pratiquement dans la forme. Quand nous jugeons sur l'absence des quatre ministres, c'est pratiquement la forme. Mais en réalité, il n'y a pas d'impact sur le terrain.
Alors, maintenant, Pastilendo, on peut parler d'une efficacité du gouvernement congolais. C'est aussi la préoccupation de Kaléa Marcel de Mutembo Nord-Kivu qui dit ceci, que son ministère sont titulaires, absentéisme pour d'autres ministres et la tenue irrégulière des conseils des ministres nous mène vers l'inefficacité du gouvernement congolais.
Je l'ai dit, vous savez, l'ère démocratique emporte l'éducation civique. Voyez-vous? Et à travers tout cela, il faut que nous nous engagions en fait dans cette école du prestige de nos institutions. Mais ce qui s'est fait, ce qui s'est dit, malheureusement, ne va pas dans ce sens-là. D'autant plus que vous ne vous en rendez pas compte. Au niveau du mental collectif, au niveau du tissu sociétal, eh bien, le prestige que l'on reconnaissait au ministre tombe. C'est la dégringolade. Si le ministre était du dollar ou du franc congolais, eh bien, le marché des changes aurait connu une effervescence dans le sens et pratiquement du négatif, parce qu'aujourd'hui, les gens se disent, comme l'a dit mes compatriotes de Massa, du cours de Ben, comme vous le pouvez le dire tantôt, on a connu un vice-premier ministre qui a été révoqué pour absentéisme, non justifié. On vient de connaître une ministre qui est révoquée parce que négligence. Et d'autres, je n'en dirai pas plus. Donc voilà un peu, le ministre, c'est pas n'importe qui dans la société. Voyez-vous, et que si déjà les communs des mortels, les petits enfants commencent à noter que quel ministre est-il revenu parce qu'il a été négligent ou elle a été négligente, ça aura des répercussions. Et maintenant, nous sommes à l'antichambre des élections, comme je l'ai dit. Je crains que cette manière de faire puisse donner de la matière à la partie adverse ou aux adversaires politiques du camp actuel au pouvoir pour pouvoir réagir autrement à leur discours politique. Voyez-vous, déjà dans les tissus, les gens se disent, mais le gouvernement, qu'est-ce d'aller dans la tête, ça ne sert à rien. Parce qu'on vient de voir ça, quatre ministres sont partis, peut-être demain on va encore évoquer d'autres ministres, et c'est la chose resterait comme ça. Et donc, d'aucuns diront, le gouvernement n'est qu'une étiquette, le vrai gouvernement est ailleurs. Mais je ne pense pas qu'il en soit ainsi. Donc, sincèrement, j'ai dit que s'il y a inefficacité, l'inefficacité vient de ce que le gouvernant eux-mêmes donne l'impression à l'opinion qu'il y a des choses qui ne marchent pas et que cela est corroboré, si vous voulez, de la manière dont on assiste jour après jour à des mangues mûres qui tombent du gouvernement sans que des lumières n'en soient données autrement.
La réalisation me signale que le professeur Bob Kabamba est en ligne. Avant de le prendre, Joseph Kongolo, une question pour vous qui nous vient de Kisangani, c'est Pélu Sungi, qui dit ceci. Pourquoi si un ministre provincial est révoqué, la nomination de son successeur ne traîne pas, mais lorsqu'il s'agit d'un ministre national, il faut attendre 2 ou 3 mois.
Bah, évidemment.
Pourquoi selon vous, ça prend du temps au niveau national hein?
Ben, évidemment, moi je crois que si ça prend du temps au niveau national, soit la procédure de nomination, n'est-ce pas, le président doit s'adresser au parti concerté pour le faire, il faudra encore que le président s'adresse à ce parti-là, n'est-ce pas, pour remplacer lui. Et la deuxième chose, c'est que ça ne pèse pas, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à réaliser que dans un pays qui doit fonctionner normalement, qui est vraiment dans une situation de décollage, n'est-ce pas, et qu'il y ait des vides comme ça, et que le pays trouve ça normal. Donc, il y a déjà des faiblesses internes, n'est-ce pas, au niveau de la concession, au niveau de la gestion, n'est-ce pas, du gouvernement, et ce sont des cas déplorables, en fait. C'est quoi des cas déplorables? Quand nous parlons du gouvernement en parallèle, justement, cela confirme, d'ailleurs, qu'il y a, ce sont des vides, qui sont vides pour nous, qui sont de l'extérieur, mais de l'intérieur, les tâches sont exécutées par d'autres personnes à un niveau supérieur, et très particulièrement, d'ailleurs, autour du chef de l'État. Nous savons, plusieurs ont été évincés dans le gouvernement, et ils nous confirment ces causes. Ils confirment bien ces causes, que les environs du chef de l'État qui bloquent, parfois qui freinent, ainsi de suite, qui distillent certaines décisions politiques, ainsi de suite. Bon, nous comprenons que c'est exactement ça, le danger. C'est un danger, c'est une faiblesse notoire, n'est-ce pas, pour redresser la société qui est à une période très, très, très difficile.
Merci, Joseph Kongolo. Professeur Bob Kabamba, bonsoir.
Bonsoir. Je voudrais d'abord présenter mes excuses donc, aux auditeurs pour ce petit problème technique avant que je ne puisse arriver à m'adresser à eux. Je vous prie de vous excuser.
Merci. Vous êtes professeur à l'Université de Liège en Belgique. Nous parlons de la révocation mardi dernier de la ministre des Transports et des Voies de Communication. Avec son départ, le gouvernement congolais compte désormais 4 ministères sans titulaire. Et la question principale de notre débat de ce soir, comment le gouvernement arrive-t-il à fonctionner dans ces conditions? Comment vous analysez cette situation, professeur Bob Kabamba?
Il y a plusieurs points. Normalement, lorsqu'il y a un ministre qui démissionne, tout de suite, normalement, il doit être remplacé. Il y a toute une coalition qui existe au niveau de la majorité gouvernementale. Et donc, lorsqu'il y a un ministre qui démissionne, de manière très claire, il doit être remplacé par quelqu'un de son parti pour le même poste. Et généralement, ça ne traîne pas. Malheureusement, dans le cadre de RDC, il y a toute une série de présenteurs, effectivement, qui comptent dans les cadres des équilibres et qui sont établis, d'une part, entre les partis politiques, d'autre part aussi, entre les équilibres constitutionnels. Vous devez savoir que chaque province a plus ou moins un certain nombre de ministres qui peuvent avoir au sein donc, du gouvernement. Alors, si un ministre démissionne et qu'il est remplacé par quelqu'un d'autre et qu'il fait partie d'une autre province, ça nécessite vraiment un équilibrage complet et au niveau donc, de tous les gouvernements, ce qui prend généralement beaucoup de temps. Par ailleurs aussi, il faut bien se rendre compte que lorsqu'on parle du gouvernement congolais actuel, on a du mal vraiment à voir qu'il y a une direction claire autour de ce gouvernement. Je me souviens que Radio Fati avait déjà évoqué au cours d'un autre débat, un autre problème qui était survenu, du fait que toute une série de décisions qui devaient être prises par le gouvernement congolais ne sont pas prises par le gouvernement. Je vous donne un exemple. L'ordonnancement au niveau de l'État n'est plus fait par le Premier ministre comme ça devrait être normalement, mais le Premier ministre a été mis sous tel que tel par une lettre de l'ancien directeur du cabinet du chef de l'État qui avait clairement mis le Premier ministre sous tutelle de gestion administrative. Et donc, ce sont des faits qui montrent qu'il y a quand même une certaine absence de direction au sein d'un tel gouvernement et que la conséquence, une des conséquences, non seulement lorsqu'on remplace un ministre, et ça prend beaucoup de temps parce que tout simplement, on n'arrive pas à avoir une direction claire avec des options claires qui sont établies à ce niveau-là. Donc voilà une des explications de ça. D'autre part aussi, je pense qu'il y a eu le fait que l'IDEMO le chef de file de l'IDEMO a démissionné donc de son poste. Son poste. Or, l'IDEMO fait partie de l'alliance et de l'alliance majoritaire au niveau du gouvernement. De ce fait, est-ce que l'IDEMO sera remplacé, pas remplacé? Est-ce qu'on va faire appel à un autre parti pour reprendre le contrôle de l'IDEMO? Je pense que c'est tous ces équilibres-là qui font que des choses s'entraînent et il ne faut pas oublier que nous sommes à quelques mois des élections et les états-majors de différents partis politiques, j'imagine, sont en train d'affûter les armes pour se préparer aux élections et l'entrée au gouvernement est aussi une des possibilités de pouvoir avoir une visibilité claire dans l'action vis-à-vis de la population.
Alors, vous avez parlé d'absence de direction au sein du gouvernement. Cela pourrait être dû à quoi, selon vous? Il y a quand même un premier ministre.
Il y a un premier ministre, mais le premier ministre, il est quand même très affaibli. Il est très affaibli quand même depuis plusieurs mois. On a déjà eu quand même plusieurs dossiers qui sont sortis sur lesquels il n'y a pas eu des décisions qui ont été prises au niveau du gouvernement. Il y a plusieurs, par exemple, lorsque vous parlez de la ministre des Transports, il y a déjà eu plusieurs accidents de liés au transport des bâches, etc. Des avions qui crachent et qui causent beaucoup de morts. Dans d'autres pays, de manière très claire, lorsqu'il y a des cas comme ça, les ministres démissionnent parce qu'ils ont failli à leur mission, et ce n'est pas le cas. Alors, vous imaginez quelqu'un qui a failli et qui reste au gouvernement sans qu'il y ait de sanctions, alors qu'il y a un premier ministre qui peut, de manière très claire, demander que tel ministre soit remplacé parce qu'il a un compétent ou parce qu'il n'assume pas ses missions. Donc, il y a beaucoup de ministres qui sont dans le cas. Et qui reste ministre, donc ce fait, le premier ministre qui a la direction donc du chef du gouvernement, de ce point de vue-là, note très bien qu'il y a une faiblesse et une absence claire au niveau de la direction. Et cette faiblesse de la direction est aussi la conséquence de décisions qui ont été prises au niveau du chef de l'État, où on a mis de manière très claire le premier ministre et il est sous système financier, pas de la présidence de la République. Alors, un premier ministre qui n'assied pas qui est chargé de la conduite des affaires de l'État, mais qui n'a pas l'autorité sur tout ce qui concerne financement, paiement, etc. Et que des raisons sont décidées par la présidence. Alors vous voyez bien que dans ce cas, on ne peut pas parler de direction au sein d'un gouvernement.
Professeur Bob Kabamba, êtes-vous aussi d'avis qu'il existe un gouvernement parallèle, comme le soutient plusieurs analystes?
Vous savez que quand on dit un gouvernement parallèle, je pense pas qu'il faut parler de gouvernement parallèle. Il y a ce qu'on appelle des conseillers. Et ce sont des conseillers sectoriels qui doivent suivre toute une série de choses aux différents niveaux. Et ces conseillers sectoriels, par exemple au niveau de la présidence, il y a tous les conseillers qui suivent les différents dossiers. Alors je l'ose croire, vous imaginez par exemple lorsque, avec la décision de mettre sous tutelle le Premier ministre, il est très clair que le cabinet du chef de l'État et avec le ministère des Finances, budget, etc., qui continue à assurer la gestion financière de l'État, et que ce fait, conseillers chargés de finances ou marginaux à la présidence suivent de manière très près toutes les décisions financières qui doivent être prises à tous les niveaux. Et de ce fait, on pense effectivement à un cabinet parallèle, mais qui dirait plus que des conseillers, plutôt que des cabinets parallèles, sont des conseillers qui ont des missions et qui assument des tâches, normalement, qui ne devaient pas assumer s'il y avait une direction claire au niveau du gouvernement congolais.
Et ce sont les conseillers qui doivent prendre les décisions à la place du gouvernement?
Je vous explique que lorsque l'on met à ce qu'il fait un premier ministre, on met ce qu'il fait un premier ministre, ça veut dire que les décisions doivent être prises au niveau de la présidence. De manière très claire, je me réfère à la lettre de l'ancien chef de cabinet du chef de l'État, l'actuel vice-ministre, vice-premier ministre chargé de la sécurité, et cette lettre est très claire, et de manière très claire, qui dit précisément que le premier ministre ne peut plus engager les dépenses de l'État sans l'accord du chef de l'État, ou sans l'accord du cabinet. Donc, de ce fait, le cabinet doit, de manière très claire, travailler avec le gouvernement pour pouvoir arriver à effectuer toute une série de paiements et assurer la gestion financière de l'État.
Alors, professeur Bob Kabamba, on va prendre une réaction pour vous qui nous vient de Mbujimayi dans la province du Kasaï oriental.
Pascal Makoli, je suis en Mbujimayi. Cela ne me seconde pas parce que nous sommes de ceux-là qui avons compris que le gouvernement n'a pas besoin du peuple. Quand il y a déjà des vides dans le ministère, cela montre qu'il n'y a pas de besoin des populations, il y a des intérêts pour leurs proches. Comment pouvez-vous comprendre qu'un ministère placé comme un chantier pour la République, comme le ministère du Travail et de Prévoyance Sociale, où il y a un vide au moins de 8 mois, c'est pour dire que non, le santé d'emploi n'est pas pris en considération et la jeunesse est bafouée.
Professeur, rapidement, réaction par rapport à cet auditeur.
Je pense que l'auditeur a tout à fait raison de pouvoir souligner cet état de fait. Et j'ajouterais même que normalement, lorsqu'il y a un ministre démissionnaire, généralement, il y a un ministre qui croit les compétences du ministre démissionnaire en attendant qu'il puisse y avoir la nomination d'un autre ministre. Je n'ai pas connaissance qu'il y a eu un autre ministre qui a pris les compétences des ministres démissionnaires pour pouvoir exercer ces compétences-là, parce que dans tout état, il y a le principe de la continuité et qui est indispensable et qui est vraiment un des moteurs fondamentaux de fonctionnement d'un état de droit. Et donc, s'il y a des ministres démissionnaires, normalement, il doit y avoir des ministres qui doivent s'occuper, qui doivent en fait assumer l'intérim en attendant qu'il puisse y avoir un autre ministre. Mais je n'ai pas eu connaissance qu'il y a eu des décrets du gouvernement au niveau du gouvernement congolais qui dit, par exemple, que lorsque le ministre n'est pas là, c'est un ministre qui prend la responsabilité d'assurer la gestion et la continuité de l'État. Et là c'est encore une fois, j'ai rejoint l'auditeur, c'est un signe, encore une fois, de l'absence, normalement, de cette direction. Parce que si vous aviez une direction, c'est-à-dire que le gouvernement peut prétendre les compétences des ministres démissionnaires et les attribuer à quel ministre et qui va pouvoir les exercer de manière résiduelle. C'est-à-dire, par exemple, les arrêtés ministériels qui doivent être signés en matière de travail, en matière de barème, en matière de fixation des salaires, etc., etc. Mais tout ça doit être fait par les ministres, par des arrêtés ministériels. Et s'il n'y a pas de ministre, ça veut dire qu'il y a un blocage au niveau du fonctionnement de l'institution et c'est que l'on vit actuellement.
Merci. Professeur Bob Kabambala, vous parlez déjà des conséquences, c'est la deuxième partie de notre débat. Juste rappeler les termes pour ceux qui viennent de nous prendre au cours. Nous parlons de la révocation mardi dernier de la ministre des Transports et Voies de Communication. Avec ce départ, le gouvernement congolais compte désormais 4 ministères, son titulaire participe au débat de ce soir. Professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique. Maître Patty Joseph Lindo, avocat et analyste politique, et Joseph Kongolo, analyste politique. Alors, le prof Bob Kabamba avait commencé déjà à parler des conséquences de cette situation sur le fonctionnement du gouvernement. Maître Patty Lindo, quelles seraient les conséquences de cette situation sur le fonctionnement du gouvernement?
Mais les conséquences, elles sont là. Je les ai déjà effleurées. Primo, le prestige du ministre tombe. Voyez-vous, le prestige fonctionnel du ministre. La crédibilité de l'institut au gouvernement comme étant l'instrument par excellence de mise en application de la politique générale, si vous voulez, du pays, eh bien, vous avez été avec moi dans les commentaires des amis à travers le pays. Donc, et deuxièmement, le fonctionnement même du gouvernement, ben, il devient tout aussi lourd, parce que vous êtes la radio Capi, et c'est un peu de faire une petite enquête pour savoir l'état qu'il faut de traitement des dossiers auprès de nos ministres et dans les circonstances normales où chacun occupe son département, voyez-vous. Si déjà un ministre vous prend un mois pour répondre à une petite lettre, et à ce ministre-là, vous lui adjoignez un autre ministère, mais et ses propres lettres pour lesquelles il prend un mois, et les lettres de notre ministère. Donc là, une autre conséquence serait que, au niveau de l'opinion, on se rend de plus en plus compte que la répartition du travail, la division du travail au niveau du gouvernement, n'est qu'une question pratiquement de pure fiction, alors qu'il n'en est pas ainsi. Voyez-vous, donc, autre chose, ben, le professeur a parlé de l'équilibre entre les conseillers du chef et le gouvernement, mais c'est pourquoi moi j'ai dit, moi je n'ai jamais parlé de gouvernement parallèle, parce que le chef de l'État, si vous analysez l'arsenal constitutionnel du pays, il joue un rôle aussi important dans la marche des affaires. Et à ce titre, quand bien même que le ministre soit ses conseillers rapprochés dans des domaines plus précis, mais le chef devrait s'entourer d'une équipe forte. Et là, si on voit plus la force de l'équipe du chef, c'est parce qu'au niveau du ministère, il y a une sorte de faiblesse dans la composition des cabinets, dans le choix même des animateurs.
Est-ce qu'on peut considérer ces conseillers comme le gouvernement perpendiculaire, comme l'avait dit le ministre Zanga?
Non, vous savez, moi je l'avais déjà dit, je ne suivrais pas cela. S'il y avait ce gouvernement perpendiculaire, mais fallait-il que le ministre se serve de son voyage pour pouvoir dénoncer cela? Et là, il faudrait aussi que les acteurs politiques congolais puissent avoir le courage quand on vous met dans des positions qui ne rentrent pas dans le sens de votre conscience. Eh bien, nous sommes sous l'ère de la démocratie, démissionner et rendre compte au peuple, mais là, il y a un problème. Comme conséquence dans ce qui se fait aujourd'hui, et ça, je crois que les présidents et les premiers ministres doivent s'en rendre quand même compte, les ministres aujourd'hui ne sont plus des commis comme sous l'État qui est perparti l'État. Le ministre constitue des points d'impulsion de l'action du gouvernement dans les secteurs qui sont le leur. Voyez-vous, et dire qu'on peut laisser ça comme ça, et périm, on donne à un autre ministre ceci, cela, ça désaffecte, si vous voulez, la structure d'impulsion au niveau du gouvernement. Et je continue en disant comme conséquence, la plus grande conséquence politique, c'est que il ne faudrait plus maintenant colmater les brèches Il faudrait que dans le remplacement, dans la restructuration du gouvernement, que le président et son premier ministre arrivent à provoquer une sorte d'électrochoc qui va pouvoir les amener à bien affronter l'électorat.
Merci, Maître Fatih Lendo. Joseph Kongolo, les conséquences de cette situation?
Bon, il y a d'abord, je crois que Maître vient de le dire tout à l'heure, il y a l'image d'abord du gouvernement lui-même, de voir un gouvernement qui est incomplet pendant des mois, dans des secteurs aussi capitaux. Donc, c'est une image qui les a bafoués du gouvernement, la crédibilité qui entame pratiquement la crédibilité du gouvernement. Et ça, cette image, cette crédibilité, cette image que présente le gouvernement aujourd'hui, je crains que ça puisse hanter toute cette jeune génération qui monte et qui va exercer aussi des responsabilités demain, et qui risque même d'accompagner l'homme, même dans la gestion des microcosmes sociaux, dans les ONG et tout ça. Donc, quelqu'un risque de croire que même si tel n'est pas là, même si mon collaborateur n'est pas là, je sais le faire seul, je sais le faire par des amis, par ceci et tout ça, des structures informelles. Donc, il y a tout cet aspect pédagogique, n'est-ce pas, qui manque. C'est une élégance aussi en politique, qui manque. Et ça, ce sont des conséquences graves. La deuxième chose, il y a toujours le retard dans le traitement. Quel que soit tous ces intérimaires qui viennent, qui sont aussi ministres, n'est-ce pas, dans un autre ministère, il doit d'abord terminer ce pour lequel il a été nommé ministre avant de pouvoir voir d'autres dossiers. Et tout cela entraîne des retards dans le traitement des dossiers. Et quand il y a retard dans le traitement du dossier, il y a retard dans la prise de décision, il y a retard dans l'exécution des décisions, et ce retard serait continuel, voyez-vous. Donc ça, ce sont des conséquences graves pour un gouvernement qui doit se maintenir dans une société qui sort du conflit. Troisièmement, il y a une certaine distorsion au niveau, n'est-ce pas, des forces politiques. Vous savez, ça crée des problèmes avec l'UDEMO au sein de la coalition. Il y a des problèmes du démo, parce que il faut remplacer le poste du démo par un membre du démo. Il faut remplacer le poste du Palou, comme c'est le cas du ministère des Transports, par quelqu'un, un membre du Palou. Alors, si on n'arrive pas à le faire, on crée encore des tensions et des transes au sein de la coalition, qui aura des impacts encore dans le fonctionnement normal des institutions de l'État, et c'est la profession qui va en pâtir. Voilà.
Merci, excusez-moi, merci Jean-Jacques Kongolo. Professeur Bokabamba, autre conséquence à ajouter
C'est une question fondamentale. Hein. Disons que moi, je vois beaucoup plus concrètement. Comme conséquence, ça veut dire que la réforme des statuts des fonctionnaires ne sera pas mise en œuvre avant la fin de la législature. C'est-à-dire aussi la réforme de tout ce qui concerne les sécurités sociales, la mise en place d'une sécurité sociale ne sera pas mise en œuvre, paiement des pensions, etc. Parce que toutes ces compétences-là étaient au niveau de certains ministres qui devaient mettre ça en œuvre. Et ça veut dire que tout ce chapitre important, un des chantiers importants, donc parmi les cinq, ne sera pas mis en œuvre parce que vous n'avez pas des gens qui vont mettre de manière très claire pour permettre à ce que les fonctionnaires, les travailleurs, puissent avoir un minimum social. Et aussi, autre conséquence grave aussi par rapport à d'autres ministres qui ont déjà démissionné, j'imagine par rapport au ministre des Transports, ça veut dire notamment la non-mise en œuvre de la réforme ou le retard de la réforme de l'aviation civile en RDC, avec la rénovation de tous les chantiers au niveau donc des atterrissages de l'aéroport au niveau de Kinshasa, de Lubumbashi et de Kisangani. Et donc tous ces projets-là, qui sont des projets indispensables pour permettre à l'RDC de pouvoir être dans le concert des nations, sont retardés par ces démissions ou révocations des ministres. Et
donc
on se retrouve avec une série de dossiers qui, malheureusement, ne seront pas concrétisés.
Professeur, je vous demande aussi de conclure. On a pris beaucoup de temps en 20 secondes. Votre conclusion?
La conclusion, elle devrait être claire, c'est au niveau de la direction donc du gouvernement congolais, c'est de pouvoir arriver à avoir une direction claire avec des lignes claires pour les mois qui restent, avec la priorité de l'organisation des élections, mais aussi la sécurisation de ces élections, parce que là, c'est aussi un enjeu capital, et qu'en espérant que le gouvernement congolais va prendre le taureau par le corps.
Merci, professeur. Maître Paty, un mot pour conclure?
Oui, je disais, parmi les autres conséquences, c'est que...
On a plus beaucoup de temps.
Oui, on se demande si les ministres méritent encore de se faire appeler excellence, dès lors qu'ils sont négligents, ils sont. Mais je dirais ceci, c'est que le retard ne doit pas non plus être crédité aux aides d'alliance, car la RDC n'est pas le premier, si pas l'unique pays à vivre la coalition. La coalition ne voudrait pas dire l'actisme, mais non, la révocation, et c'est quelque chose qui a été préparé en avance et qu'on pouvait facilement... Posons au remplacement et je terminerai en disant tout ceci pose les problèmes du choix
des hommes dans ce
pays. Voilà pourquoi Joseph Kongolo, un mot.
Bien, l'essentiel des prérogatives des ministres qui sont absents du gouvernement, qui ont été révoqués ou qui ont démissionné, sont exécutés par des membres qui sont autour du chef de l'État et qui exercent un pouvoir plus accru par rapport au ministre. Alors, il y a un gouvernement parallèle qui exécute les tâches réservées au gouvernement.
Merci, Joseph Kongolo. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, Guy Mathieu, Samuel Kachia, sous la supervision de Pélé, l'équipe de la Mondo. J'ai écouté, vous la présenter à l'ingor et à la technique, et Sylvain Baouveré. Votre de programme pour la fréquence de la Terre et diffusion de 24h40.